tous les soirs par les temps qui courent, une heure avec un ou une artiste ce soir, Souad Asla.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
France Culture.
Par les temps. Par les temps qui courent.
Avec Marie Richeux et Souad Asla.
On oublie parfois qu'il faut chanter pour tout, parce que c'est une évidente façon de trouver la joie, parce que c'est une étonnante façon de parler à nos morts, parce que c'est le début d'une bonne danse, parce que ça endort, ça réveille, cela dit qui nous sommes bien plus profondément que d'autres choses, qui nous sommes ensemble par exemple, parce que chanter relie au monde. Ça paraît bêta comme ça, mais c'est suffisamment ancien comme expérience pour le dire simplement. Et bien voilà ce que j'entends moi en écoutant la musique que vous faites avec le groupe de femmes Lema, cette musique de la région de la Saoura, dont la culture musicale, de récits, de croyances, de musique, s'organise notamment autour des Ksuo. Vous serez Souad Asla en concert dans le cadre du festival Arabofolie qui a lieu du 7 au 16 juin prochain. Et le disque est paru chez Bouddha Records. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
C'est un concert qui aura lieu le 9 juin à 17h30 dans l'auditorium de Lima. Et cette année, le festival a pour thème transmission. On y reviendra. On va commencer par un homme, comédien, Serge Merlin, qui nous parle d'un endroit de son enfance, le désert.
C'est très laid le désert, c'est très laid, c'est des cailloux, des choses comme ça. De temps en temps, il y a une dune qui fait plaisir, parce que ça a une ligne imparable, enfin, vraiment. Et puis la lumière, surtout, tout autour de ça. Puis c'est pas le mien, vraisemblable, tout à coup, cette brusque nature, comme ça, qui est... tellement violente, là, au milieu de cette finesse du sable, de cette poudre de riz, de ce rêve. Mais un rêve atroce, hein, très douloureux, avec une chaleur épouvantable. Tout est hostile, tout est terrible, tout est affreux, sauf... les nuits et les étoiles, mais ça, c'est pour le souvenir. Quand on a ça au-dessus, on a tous les inconvénients de ces choses. Enfin, c'est en même temps, dans le souvenir, c'est astral, quoi. C'est arrivé. C'est un songe, c'est une songerie. C'est fait pour ces récits-là de gens qui traversent le désert, qui voient, qui sont inspirés par ça. Sinon, c'est fait pour le père de Foucault, c'est-à-dire des scorpions, des vipères à cornes et des choses comme ça. Enfin, le démon partout, quoi. Sauf les roses de sable que je découvrais dans le désert et qui... j'avais l'intuition de leur place. Je savais les trouver, je sentais leur chaleur et j'allais vers elles comme si c'était vraiment des roses. Et ce que j'ai éprouvé plus tard quand j'ai vu des roses ou des beautés, de la beauté.
Quelle émotion d'entendre la voix de ce grand, grand comédien Serge Merlin qui partage un bout du monde avec vous, Souad Asla, puisqu'il est né à Béchar.
C'est incroyable.
On est tellement loin de l'évocation idyllique du désert quand il commence par dire le désert.
C'est très laid.
Il est là au micro de Laure Adler en 2016. Peut-être c'est un bon début de commencer par parler du désert, si vous voulez bien.
Oui.
Qu'est-ce que vous en diriez, vous, après Serge Merlin? Est-ce que vous le rejoignez sur la laideur du désert?
C'est incroyable ce témoignage. Je Parce qu'est-ce que je peux lui dire? Je le rejoins, mais j'ai pensé la même chose quand j'étais enfant, quand j'habitais cette région. Je me suis rendu compte de l'immensité et de la grande beauté du désert après l'avoir quitté. C'est vrai, à mon adolescence, mon enfance, on partait souvent dans le désert pour faire des pique-niques avec mes parents et je trouvais ça très très laid, je trouvais ça triste. Et dès qu'on avait l'occasion de monter dans le nord, à Oran ou à Alger, dès que je voyais des forêts, du vert, c'était la vie. C'était vraiment la vie. Et j'ai changé vraiment d'avis. Le désert, c'est la plus belle chose du monde. C'est quand j'ai quitté l'Algérie que je suis venue en France. Et à force d'y aller, de temps en temps, j'allais me retrouver toute seule dans le désert. Et c'est là où j'ai appris à le regarder autrement.
Alors, on parle de quel désert, puisque Serge Merlin est né à Béchar, donc c'est pas n'importe quel endroit, c'est un endroit qui va être important pour toute la discussion qu'on va avoir avec vous, Souad Asla. C'est quel endroit et qu'est-ce que c'est que cet endroit Béchar, en quoi est-ce qu'il est important pour la musique qu'on évoque aujourd'hui?
Alors, Béchar, c'est une petite ville, porte du désert, sud-ouest algérien. C'est pas vraiment le désert, il faut faire 100 kilomètres pour retrouver vraiment le grand désert et les dunes. Cette ville, c'est vraiment un carrefour culturel. Il y a beaucoup de passages. On est juste à côté du Maroc. Et musicalement, c'est très, très riche. Il y a énormément de styles musicaux. Les gens pratiquent, si je peux dire, dès la naissance, la musique. La musique, elle fait partie de nous. Mais ça reste aussi une petite ville très conservatrice. Et pour les femmes, c'est pas très, très évident de les femmes, elles chantent, presque toutes les femmes à Béchar chantent, mais dans l'intimité.
Justement, ce groupe de femmes avec lequel vous faites ce disque, avec lequel vous allez vous produire, ce sont quelles femmes ? Alors, réunies autour de ce mot-là, l'EMMA, de ce mot du rassemblement, c'est qui ?
Alors, c'est 12 femmes. Il y en a que j'ai grandi avec, il y a des femmes que j'ai vues depuis toute petite. Il y a des jeunes que j'ai suivis après, des années après, que je suis jusqu'à maintenant. C'est presque une famille. Ces femmes, elles ont joué dans les mariages de mes frères et sœurs et mes cousins. Elles ont chanté dans les deuils de mes parents et de ma famille. Au fait, c'est ma famille et je les ai réunis. C'est un peu égoïste aussi. Au départ, c'était vraiment très égoïste de ma part. C'était pour moi. Je les ai réunis pour que cette musique reste toujours dans ma tête. Parce que ces dernières années, à chaque fois que je me rendais à Béchar, exactement dans un petit village à 100 kilomètres de Béchar qui s'appelle Tarit. Et depuis très très longtemps, tous les vendredis, des femmes se réunissent dans l'Exour, dans une maison, et elles chantent toute l'après-midi. Et moi, j'ai l'habitude d'aller leur rendre visite à chaque année. Et je remarquais que dès qu'il y avait une femme qui disparaissait,
elle n'était pas remplacée.
Quand je leur ai posé la question, mais elles sont où, vos filles, les plus jeunes, elles sont où? Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais tu sais, Souad, les filles trouvent cette musique ringard, elles aiment pas et elles viendront jamais. Et c'est pour ça, quand on va mourir, on va l'emporter avec nous. Et j'ai eu mal au cœur, je me suis dit si elles sont amenées à disparaître, ça veut dire tous mes souvenirs vont disparaître. Et moi, c'est la seule attache pour moi, pour me rattacher à ce pays, à cette culture. C'est très important pour moi de garder, sauvegarder ces morceaux.
Avant de quitter l'Algérie, vous n'aviez pas ce lien aussi fort avec le chant de ces femmes-là?
J'aimais bien, parce que les mariages, je dansais, j'adorais danser à l'époque. J'aimais bien, mais je connaissais les morceaux, mais sans plus. Vraiment sans plus. J'étais plus attirée par la musique blues, le reggae, plus par la musique qui vient d'ailleurs. C'est toujours musique du monde, mais de loin. Chez moi.
Quand vous leur avez dit que vous vouliez faire quoi? Acte de mémoire, de transmission, de conservation aussi, de collecte d'une certaine manière, elles l'ont accueilli comment?
Au départ, c'était, elles ont rigolé, elles m'ont dit, mais c'est une idée folle, ça va te demander énormément de temps, est-ce que tu vas réussir? Et puis nous, est-ce qu'on est capable, la scène, il y en avait deux du groupe qui étaient habitués un peu à la scène, toutes les autres, elles avaient jamais fait de scène. Et puis le regard de la société, des maris, tout ça. Du coup, j'ai pris ma force à deux mains et j'ai été voir les maris, j'ai été voir les frères pour les convaincre, pour leur dire je me porte garante de ces femmes-là. Et puis c'est un travail noble qu'on fait. Au départ, c'était pas évident, mais après elles ont pris conscience. Une fois sur scène en Algérie, elles se sont rendues compte que le public algérien ne connaissait pas ces chants, ne savait même pas qu'existait des Algériennes qui pouvaient jouer le karkabou, le tobal, qui pouvaient faire ce genre de discipline. Et
au sens algérienne, c'est-à-dire des femmes?
Des femmes, ouais. Et puis, petit à petit, maintenant, elles me suivent dans le... Mais au départ, c'était pas évident.
Puisque vous dites qu'elle se retrouve donc dans les Ksour, est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? J'ai dit qu'une partie de la culture de cet endroit s'organisait aussi autour des Ksour, parce que ça va nous permettre ensuite de parler des différents styles de musique que vous avez récoltés. Alors c'est quoi?
Le Ksour, c'est comme la vieille ville dans une ville. C'est des vieilles maisons. Et souvent, à Tarit, elles sont abandonnées parce que les gens, ils préfèrent construire des nouvelles maisons. Je trouve ça très, très dommage. Et c'est en taube, c'est des maisons construites en taube.
Et qui sont donc vraiment dans le désert.
Dans le désert.
Complètement dans le désert, qui peuvent ressembler comme des petits châteaux presque. Enfin, c'est pas des...
châteaux forts, des petits...
Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu fortifié, c'est comme des... Oui, c'est comme des vieilles villes fortifiées, mais souvent plus petites que ce qu'on peut nous imaginer. Comme
et qui sont dans le désert, et c'est vraiment un havre de paix, parce que c'est très différent. Sans pas dans une maison, il y a une odeur particulière, et puis on se repose vraiment dans l'exor.
Donc vous avez aimé, à partir du moment où vous avez retrouvé cette musique-là, vous avez de nouveau aimé le désert, ou vous avez commencé à l'aimer autrement, Swadas, là?
C'est pas avec la musique, c'est quand je suis partie du désert et de ma famille, quand j'ai quitté l'Algérie. Et c'est en revenant que j'ai commencé à parler avec le désert et à le découvrir, vraiment.
Et c'est un lieu avec lequel vous pouvez parler?
Oui. C'est un lieu avec qui je parle, c'est un lieu où je me sens toute petite, mais en même temps... très grande. C'est un lieu qui m'apaise, qui me fait du bien.
Quand Serge Merlin passait de la laideur au caractère astral, c'est étonnant, hein, parce qu'il commence par dire c'est moche, je trouve pas, puis il en vient aux étoiles, il en vient au récit, il finit par dire c'est un songe.
Tout à fait. Moi, quand je suis dans le désert la nuit, j'ai pas l'impression d'être sur Terre.
Vous n'avez pas peur?
Même si on est pas croyant, quand on se retrouve là et quand on voit ce ciel immense, on dirait que c'est une télé, une plasma, et on est là. On peut pas dire qu'il y a rien. On peut pas dire qu'on va mourir et puis on va plus exister.
Ça vous rapproche de quelque chose de mystique,
de mystique, de spirituel.
De spirituel.
Oui. Ouais.
On va vous écouter faire de la musique.
Merci.
Soit douce là, à cela, c'est un titre qui ouvre ce disque-là. Et c'est un titre particulier puisque c'est celui que vous composez. Oui. Alors, est-ce qu'il est arrivé après avoir justement travaillé tout ce patrimoine, être enrichi de tout cela et vous êtes mise au boulot après tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, il est au début, à la naissance de votre projet?
Il est arrivé après. Tout à fait. Il est arrivé après, après les résidences, après être enfermé avec les femmes pendant quelques mois. Je faisais des allers-retours, j'ai fait des résidences pour monter le spectacle et pour répertorier pour les morceaux, faire un choix des morceaux que je vais mettre sur l'album. Et au fait, ce morceau, il est arrivé quand on était en train d'enregistrer à Alger. On a passé 15 jours ensemble, on allait tous les matins au studio, et dès que j'avais la mélodie, elle revenait, puis le soir, on buvait le thé ensemble, et je leur ai dit, j'ai un morceau dans la tête, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à la percussion, et puis on l'a monté comme ça.
Et il dit quoi, ce morceau-là?
En fait, c'est un morceau que j'ai écrit, où c'est pour rendre hommage à ces femmes, Jayin, Jayin, Msahara Jayin, on vient du désert, où je parle de cette région, où je parle de ces femmes, où je les remercie de m'avoir suivi dans cette folle aventure.
Et à la fin, on entend que vous énumérez leurs prénoms.
Oui, une par une. Ah, vous...
Bon, on entend leurs prénoms, quoi.
C'est bien, vous comprenez bien.
On entend quelque chose qui est là et qui est joyeux, et que c'est aussi une manière de dire on est tout ensemble à faire ce projet-là. Alors, comment ça s'est passé? Vous êtes... tous mis autour d'une table et vous vous êtes dit, bon, alors on va procéder par genre musicaux, qu'est-ce qu'on a dans notre besace, qu'est-ce qu'on a comme morceaux, comment vous avez fait, parce que c'est aussi un projet savant de conservation du patrimoine.
Tout à fait. Ma première démarche, c'était de les réunir au départ, après de les emmener, de les sortir de chez elles, de leur maison, de leur cuisine, de les séparer de leur famille, quelques temps. Je voulais qu'elles aient vraiment la tête libre, qu'elles pensent qu'à la musique. On est parti à Tarit, j'ai loué une grande maison dans une palmeraie et pendant deux soirs, je faisais que écouter. Moi, j'avais déjà une idée des styles parce que je connaissais les styles qui se pratiquaient dans la région et tout. Et je leur demandais de chanter, j'écoutais et je notais. Après, j'ai pris la décision pour les styles que je voulais représenter dans cet album. Je leur en ai fait part, on en a discuté. Après, j'ai fait le choix des morceaux et on a commencé petit à petit à monter le programme.
Vous vous dites finalement dans cet endroit-là, dans cette région de la Saoura, il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui pratiquent la musique depuis qu'ils sont nés. C'est votre cas?
Oui. La musique... Moi, surtout la danse, je dansais énormément. Et la musique, oui, mais toute petite, on m'a bien fait comprendre. Moi, je voulais faire du théâtre. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en France. C'était mon rêve. Et comme on allait à Béchar, pas de conservatoire, pas de théâtre, je faisais mon théâtre toute seule. Du coup, ma famille, ils ont eu un peu peur. Ils ont cru que je commençais à perdre un peu la boule. Après, j'étais très attirée par la danse. Mais dès que j'ai commencé à grandir un peu et on m'a fait comprendre que c'était pas pour moi, que il fallait pas y penser, que je ne pourrais jamais faire ce genre de métier. Même quand j'ai demandé mais pourquoi on danse bien pendant les fêtes et tout, mon papa il m'a dit oui, on danse pour nous, on chante pour nous, mais chez nous il n'y a pas de fille qui monte sur scène ou qui fait du théâtre.
Pour le chant, c'était la même chose.
Pour le chant, c'était la même chose.
C'est quoi, une histoire de pudeur?
Une histoire de pudeur, une histoire de société, une histoire de poids familial. Moi, j'avais un père, paix à son âme, très, très... C'est grâce à lui si je suis là, si je me suis battue pour ma liberté. Parce que toute petite, il me faisait monter dans la voiture et puis on faisait des kilomètres, on parlait, il me disait « c'est important ta liberté, les études c'est important ». Il m'a vraiment poussée et après quand j'ai voulu faire ce que je voulais...
Il a été rattrapé.
Il me l'a avoué bien des années après. Parce qu'à cause de tout ça, à un moment donné, j'ai décidé de partir malheureusement et de les quitter. Et c'était pas facile. Et après, le hasard a fait qu'ils reviennent ici en France et il me l'a avoué. Je lui ai dit, mais papa, c'est ton éducation. C'est toujours, tu m'as dit, la liberté, c'est important et tout ça. Il me dit, oui, je sais, mais j'avais les mains liées, je pouvais rien. Même mon père, qui était un homme qui avait une notoriété et tout, il était emprisonné par la société.
Mais manifestement, pas tant, puisqu'il vous a donné la possibilité intérieure de sortir du cadre.
Oui.
Pas sur place, il vous a fallu partir.
Là, il m'a fallu partir, oui. J'aurais pas pu le faire. Il m'a fallu partir, faire ce que j'avais envie de faire, faire mes épreuves ici. Et c'était très difficile de revenir parce que mon départ était très douloureux pour la famille, pour la société. Et j'ai fait le théâtre et tout ça, mais dans la discrétion. J'avais jamais, je disais pas que je faisais du théâtre. Après, ça m'arrivait de jouer, parce que j'ai accompagné Asna pendant 17 ans comme choriste, quand elle avait des
concerts. Faut dire qui c'est.
Asna Bacharia, elle est avec moi dans le groupe, c'est ma maman spirituelle, c'est une artiste.
Une très grande musicienne.
Une très grande musicienne de Gnawa. Et je l'ai accompagnée pendant des années, et au fait, quand elle avait des concerts en Algérie, je refusais, et quand je pouvais pas refuser souvent, je me cachais avec le bendir. Dès que je voyais une télé, il fallait que je me cache. Et j'ai eu pas mal de soucis aussi avec ma famille qui m'ont appelé après, qui m'ont dit ah, « tu fais la musique, c'est honteux » et tout ça. Mais malgré tout ça, je sais pas pourquoi je suis revenue alors que tout me disait « ne reviens pas, fais-toi discrète, fais ta vie en Europe » et je sais pas.
Vous savez vraiment pas pourquoi ? Même après ce disque-là, après avoir travaillé les racines, les profondeurs de cette musique, écouter ces femmes ?
J'ai l'impression que c'était une mission pour moi. Parce que je l'ai fait vraiment, j'avais peur de le faire. Et c'est pas un choix évident. Et ça. Mais je me sentais obligée.
C'est bien que monter sur scène avec ce groupe de femmes, l'EMA, ça a une dimension patrimoniale, mémorielle, mais aussi extrêmement puissante en termes d'émancipation, soit d'Aslar. Ça veut dire que c'est un geste pour vous qui est, est-ce que vous diriez, de l'ordre du courage ?
Courage, c'est moins difficile qu'il y a quelques années. J'avais 18 ans, il fallait partir et ça, il fallait du courage à cet âge-là. Oui, revanche. Dire, voilà, je reviens, je constitue un groupe de femmes. Je les mets en lumière, elles font le concert avec moi, il y a toutes les âges, il y a ma grand-mère avec moi, ma mère, ma sœur, mes filles, parce qu'il y a une de 20 ans qui aurait pu être ma fille, et on fait rien de mal, et soit elle revient, même si je suis partie, je vous ai laissé, mais je reviens pour vous, pour ces femmes-là, pour cette musique.
Et elles en disent quoi, ces femmes-là? Une fois qu'elle sort de scène, par exemple?
C'est très marrant. Ça dépasse, c'est pas qu'un groupe, on fait de la musique. Il y a vraiment un grand travail psychologique à faire. Il fallait être très fine. Faut pas les brusquer, elles sont très susceptibles. Du coup, il y a une qui est une grande danseuse, qui connaît vraiment la danse Gnawa et tout ça. Au début, je lui ai proposé de danser. Elle a dansé un peu, après, un jour, elle me dit « je danse pas sur scène ». Elle a refusé, parce que sur Internet, tout le monde dit « tu as fait la Mecque et tu danses et tout ça ». Je lui ai dit « ok, je respecte ». Pourtant, j'étais vraiment malheureuse, parce que ça ajoutait vraiment quelque chose au spectacle. Et un jour, c'était à Grenoble, le concert a commencé, tout, la chanson Gnawa commence, je me lève pour danser, parce qu'il y avait pas, elle voulait pas, et d'un seul coup, elle se lève. Après le concert, je lui dis, mais Rabia, t'avais pas dit que tu dansais pas, que ton mari peut te voir à la télé? Elle me dit, c'est bon, je m'en fous. Maintenant, ils peuvent me voir, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pour vous dire, ça a vraiment libéré des choses. Les femmes, elles chantaient normalement, librement, elles faisaient de la percussion librement, mais entrent dans un milieu vraiment très, très réservé aux femmes et très fermé. Et maintenant, elles sont sur scène. Elles ont, par exemple, le rapport avec le micro, le retour. Au départ, je leur ai dit, écoutez, le retour, ça sert de vous entendre. Ah, non, pas besoin, nous, on fait comme d'habitude. Maintenant, elles arrivent sur scène, elles se placent, elles demandent à l'ingénieur du son, tu peux me rajouter, je m'entends pas. Elles sont vraiment professionnalisées. Et ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est qu'elles se sont rendues compte de... De la richesse.
Ah.
De la richesse de ce patrimoine. Et elles se sont rendues compte de leur force et de ce qu'elles portent. Elles sont maintenant, elles le portent avec dignité. Et je suis contente. France Culture, par les temps qui courent, avec Marie Richaud et Souad Aslam.
Là, c'est très très curieux, voyez-vous, parce que du fait qu'on ait cette percussion avec les verres, le chant dure plus longtemps. Et là, moi j'ai une question, alors, qu'est-ce qui prime ? Qu'est-ce qui prime ? Le sens des paroles ou la mélopée ?
Non, c'est vraiment la scansion. D'abord, on va dire le texte, qui est un texte de prière,
ouais,
là encore.
Mais pour des gens non initiés, la transe vient aussi du rythme et du sens, mais de cette mélodie-là, qui est une mélodie qui tourne.
Moi, je vais vous dire la chose impressionnante de ce texte, et cette traduction littérale et immédiate que j'en donne va le signifier. C'est vraiment un texte qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire un cercle qui se dégage de lui-même pour produire juste à côté un autre cercle, et ainsi de suite. Ça fait une espèce... Ça fait ça, en fait. Hein. Ça fait ça.
Oui.
Et ça, c'est quoi ? C'est la définition parfaite de ce que Blanchot appelle le ressassement éternel. C'est-à-dire, c'est une répétition continue, mais qui procède par de très légers glissements progressifs. Mmh. Ce n'est pas la répétition absolue
oui,
du même. C'est toujours la répétition d'un même qui n'est jamais le même. Et c'est pour ça que c'est un cercle qui engendre un autre cercle qui est presque, qui se confond presque au premier cercle, tangent au premier cercle, et ainsi de suite.
C'est la voix d'Abdelwahab Medeb avec Françoise Atlan. En 2013, ils étaient à Essaouira, un grand festival de musique nawa. Et juste avant, il y avait Sidi Mimoun, qui est un morceau qu'on trouve sur le disque Souad Aslam avec le groupe de femmes Lema. Alors, d'une part, d'un seul coup, on change un peu de géographie. On se retrouve à Essaouira. Alors, il se trouve que c'est un festival de musique. Mais est-ce qu'il y a une géographie de cette musique nawa qui irait qui traverserait tous ces pays-là.
Oui, oui, oui. La musique Kinawa, elle est partout au Maghreb, elle est au Maroc, elle est en Tunisie, en Algérie, en Mauritanie. Et ce qui diffère, c'est par exemple le Gnawa marocain et le Gnawa algérien, c'est presque la même chose, c'est la façon de chanter et un peu la façon de jouer. Le Gnawa algérien reste encore un peu trad, se pratique pour les cérémonies. Il n'a pas vraiment encore été, maintenant il y a des petits jeunes, des petits groupes, mais il n'a pas été modifié ou exporté comme le Gnawa marocain maintenant qui est connu partout mondialement avec le festival Essaouira. Et puis il y a eu pas mal de fusions. Gnawa algérien, ça reste un Gnawa brut. Le Gnawa marocain, à mon avis, c'est du Gnawa, mais un peu modifié, un peu qui a évolué. Et
quand on entendait dans la voix d'Abdelwahab Medeb l'idée de ce cercle-là, alors le cercle, finalement, c'est une figure géométrique qu'on retrouve beaucoup dans ce projet-là. Que ce soit, on y viendra, un cercle peut-être plus mystique, des cérémonies qui ont davantage à voir avec de la possession, par exemple. Que ce soit des cercles juste communautaires, de chant, des cercles de célébration, des cercles de deuil. Et là, il décrivait un poème qui se décale comme ça et qui est aussi le cercle de la transe. Est-ce que vous avez un rapport comme ça avec cette musique? Un rapport de transe?
Oui, j'ai ce rapport de transe, cette musique. Et c'est exactement ce qu'il dit, c'est comme des cercles et ça bouge doucement. La musique, elle change, on n'a pas l'impression qu'elle change, mais ça, progressivement, ça s'accentue, comme on dit, la cadence s'accentue petit à petit. Et si vraiment on est dans une cérémonie, c'est comme, moi je dis, c'est comme un peu la techno, vous savez, quand les jeunes ils sont là et après ils partent, c'est pareil pour la transe, on est dedans, on écoute, et au fait c'est un lâcher de soi, enfin, dès qu'on on se lâche, et puis il y a l'esprit qui commence à monter, et plus la cadence elle monte, plus la musique, plus la danse elle est plus forte. Il y en a qui jusqu'à la transe et la libération, et puis il y en a qui tombent pas en transe, ça dépend des personnes.
Et ça, cela vaut autant pour les personnes qui sont là pour entendre que pour les personnes qui sont en train de jouer.
C'est fait pour les personnes qui sont là pour entendre. Les personnes qui sont en train de jouer, c'est des personnes déjà initiées. C'est très rare qu'une personne qui joue tombe en transe. Et c'est des personnes qui connaissent cette musique, qui ont fait qui connaissent cette musique et qui sont là pour jouer. C'est rare qu'un joueur tombe en transe pendant les cérémonies.
Vous voulez dire des personnes initiées, ça veut dire que c'est des personnes qui elles-mêmes, en tant qu'auditrices ou auditeurs, ont connu cette transe musicale?
Oui, ont connu cette transe musicale, leur a fait l'effet, et puis qui ont fait un travail au niveau de la musique, qui ont suivi cette musique, qui ont appris les morceaux, et puis qui jouent des musiciens, enfin...
Et ça correspond à quel moment de vie, puisqu'on disait tout à l'heure que c'était aussi de la musique qui correspondait à des moments de vie comme les mariages, comme les deuils, etc. Ça correspond à quel moment? C'est des réunions où on joue de la musique et où on vient pour rentrer en transe, ou alors parce qu'on arrive avec un souci, parce qu'on arrive avec... C'est quoi exactement, concrètement, je veux dire?
Souvent, ces cérémonies sont préparées à la demande des familles. Et souvent, la demande, elle est faite quand il y a un membre de la famille qui est malade. Et on fait appel à ces musiciens pour organiser une lila, toute une soirée autour de cette personne malade. Et on lui joue de la musique avec des c'est tout des rituels j'en perds mes mots,
très précis,
très précis, ouais. On joue aux malades la musique, souvent il met du temps à tomber et on le prépare pour sa grande transe, et une fois qu'il tombe en transe, on dit que son mal, il part avec cette transe.
Et ça continue de jouer pendant ce temps-là.
Et ça continue de jouer, les invités aussi. Et il n'y a pas d'invité, au fait, dès qu'il y a quelqu'un chez nous, quand on entend qu'il y a une hadra chez une personne, on peut y aller sans être invité. pour y participer, pour tomber.
Ce hadra, c'est précisément ce cercle de trance. De...
Le hadra, c'est un style musical comme Gnawa, c'est que de la percussion, il n'y a pas d'instrument à cordes, il n'y a pas le gombri, et c'est chanté par les femmes. Enfin, il y a le hadra masculine, mais moi je vous parle de hadra, cette hadra féminine. C'est chanté par les femmes et c'est fait pour guérir. Et la femme, le Hajja Zaza, qui a 74 ans, elle a 40 ans de carrière, c'est la musicienne, c'est la référence à qui on fait appel pour monter ce genre de cérémonie. Mais c'est très codifié, même moi, j'en connais pas, il faut vraiment être vraiment initié pour...
Comprendre toutes les subtilités du rite.
Il y a beaucoup de subtilités, ouais. Ouais. Moi, j'ai assisté à des hadras, c'est incroyable. On voit une liberté, mais en même temps, ça peut faire aussi peur. On voit ces femmes qui se déchaînent, qui dansent jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à l'évanouissement. C'est très fort.
On entendait Abdel Wahab Medeb parler des paroles du poème et de la prière. Dans le morceau qu'on a entendu, Sidi Mimoun, il est question de quoi ?
Sidi Mimoun le Gnawi, c'est un saint, c'est un Gnawi, où on évoque, où Hasna, elle l'appelle, Sidi Mimoun, guéris-moi, c'est des louanges à ce saint, Sidi Mimoun.
Vous pensez que toutes les musiques que vous avez réunies sur ce disque Swadasla sont des musiques qui guérissent ?
Oui, je pense que toutes ces musiques, c'est des musiques qui guérissent. Pourquoi ? Parce que c'est des musiques qui sont vraies, sincères. Et c'est des musiques qui portent vraiment. Moi, on a fait pas mal de concerts à l'étranger où on était face à un public qui connaissait pas, qui comprenait pas ce qu'on disait et tout. Et souvent, à la fin du concert, on vient me voir en me disant on ne comprenait pas les paroles, mais juste le fait de vous entendre parler, on n'a pas compris. Il y a eu des choses dans nos corps qui s'est passé. Ça nous a fait du bien. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui me racontent que ça les a rappelés. Ça leur a rappelé des souvenirs. C'est une musique qui parle à l'âme, qui est d'une simplicité. C'est le fait qu'elle soit simple. Et ces femmes, elles sont sincères. Elles sont pas encore. Elles donnent sincèrement ce qu'elles ont. Et c'est ça, je pense, qui guérit, c'est la fédération, la musique, c'est une musique fédératrice aussi. Et quand on chante ensemble, on a l'impression de faire qu'un, et souvent ça guérit, quand on se sent pas seul.
Quand vous dites que c'est une musique simple, que ce sont des musiques simples, vous voulez dire qu'elles sont aussi simples à exécuter, simples rythmiquement, simples dans leur harmonie, parce qu'en écoutant, je me dis pas du tout que c'est le cas.
Non. Elles sont vraiment pas très simples.
Elles sont difficiles, au contraire.
Très difficiles, surtout la percussion.
Endurante.
Pour une oreille occidentale. Moi, j'ai pas mal d'amis musiciens. Quand ils ont écouté le disque, ils m'ont tous appelé. Mais soit, c'est des folles, ces femmes. Mais comment elles font? Parce qu'elles ont des rythmes on me l'a dit ici, il faudrait énormément, énormément d'années pour apprendre ces rythmes-là. Et elles l'ont naturellement. C'est pas une musique simple dans le sens rythmique. C'est une simplicité de l'âme, c'est ça dont je parle. Mais sinon, c'est une musique très très complexe, rythmiquement c'est très complexe. Des fois on a l'impression que c'est faux, ça sonne faux, alors c'est pas du tout faux.
C'est juste dissonant.
C'est dissonant, ça joue comme ça.
Vous avez dit tout à l'heure que c'était une qu'il pouvait y avoir des musiques uniquement percussives, et puis parfois il y a ce fameux, cet instrument important qui s'appelle le gombri, on va écouter une archive à ce propos.
Il y a deux catégories de gnawa. Il y a à la fois les gnawa arabophones, ceux qui célèbrent le rite de possession avec ce célèbre instrument qu'on appelle le guenbri, et il y a les Gnawa berbérophones qui eux aussi célèbrent un rite de possession mais ne disposent pas de cet instrument qui est le guenbri, qui est un instrument à cordes, un luth-tambour plus exactement, à registre bas. Il nécessite une grande maîtrise. Et même la fabrication de cet instrument fait partie du métier du maître musicien qui anime les rites de possession. Sur la fabrication de cet instrument magique, sacré, à partir du bois de peuplier, il est creusé dans le bois du peuplier et recouverte, la caisse est recouverte d'une peau qui provient du cou du chameau. La peau du cou du chameau, c'est une caractéristique essentielle. Le manche, il fait à peu près 1,20 m et il y a trois cordes qui sont fabriquées à partir d'intestins de cabri. Trois cordes, une majeure et une médiane et une mineure. Alors, ils sont attachés au manche par des lanières en cuir et chaque corde comporte un nombre exact d'intestins pour avoir les sons nécessaires à l'animation du rite de possession. Au bout du manche, il y a une languette en fer qui porte des petits anneaux. Et lorsque le maître musicien joue, ça fait un peu un son métallique, un peu comme une cymbale. Donc à la fois, c'est un instrument à cordes, un instrument de percussion. Et cet instrument-là, qui est normalement utilisé pour la célébration du rite de possession, a un statut particulier, surtout lorsqu'il est consacré uniquement pour la célébration du rite. Les malins prennent des tas de précautions, des précautions essentielles, parce que c'est l'instrument qui appelle les esprits, les mlouks. Ce sont des djinns, mais qui, dans le lexique des Gnawa, on les appelle des mlouks, parce que le mot melk vient du verbe malaka, qui signifie posséder. Alors, comme on est particulièrement dans un rite de possession, le djinn, dans ce contexte, devient un melk, c'est-à-dire qu'il va y avoir, après initiation, une relation qui s'établit entre la personne et son melk, avec lequel il va entretenir des relations, et même, dans le degré supérieur, avoir une alliance avec cet esprit.
Alors on entend la voix d'Abdelhafid Chlié, qui est un ethnologue et qui est spécialiste justement des rites musicaux et de cet instrument-là. Alors il parle du guenbri comme un instrument magique. Est-ce que vous diriez cela, vous aussi, Swada Asla ?
Oui, tout à fait. C'est un instrument magique. Cet instrument me fait énormément de bien. Je joue un peu le guenbri. Mais dans l'intimité, je me sens pas assez capable de le jouer sur scène. Et c'est marrant, dès que je le pose sur mon ventre, ce son, si je me sens mal, si j'ai des douleurs et tout, dès que je commence à jouer, je sens que ça traverse, ça me fait énormément de bien, du bien au corps. Ce son assez lourd, assez sourd, assez... J'adore cet instrument.
Et alors, il y a une femme qui est importante dans toute cette histoire, vous en parliez tout à l'heure, c'est Hasna El-Bacharia. Certaines personnes disent que c'est votre guitare héroïne, mais donc c'est quoi son rapport, elle, avec le guenbri, justement ?
Hasna El-Bacharia, la roqueuse du désert,
ah ouais,
la libératrice de la musique gnawa. Son histoire, au fait, Hasna El-Bacharia, son père était un grand malm. Vraiment, c'était quelqu'un qui avait une troupe et qui partait de maison en maison, qui animait les cérémonies, et un troubadour, son père. C'était un ma'allem connu à Béchar. Et au fait, Hasna, elle regardait son père jouer. C'est ce qu'elle m'a raconté, elle regardait son père jouer. Son père lui interdisait de faire la musique. Elle a une histoire incroyable, cette femme. C'est vraiment grâce à elle aussi que j'ai eu la force d'affronter tout ça. Et parce qu'à l'époque, c'était Béchar, c'était vraiment très une ville conservatrice. Et son père était, elle racontait, c'était un homme dur avec elle. Elle le regardait en cachette. Et dès qu'il partait pour faire, pour travailler, en fait, elle montait à la terrasse. Elle a construit un petit guenbri. Elle avait construit. Et puis elle le jouait. Elle jouait discrètement. Après du guenbri, elle a sauté à la guitare. Béchar, elle animait les mariages avec la guitare électrique. Moi, je me rappelle, j'avais 6 ans, on voit cette femme incroyable, magnifique, très belle, une black avec une guitare blanche, elle avait la guitare blanche, et la terrasse pleine de femmes. Franchement, maintenant, avec le recul, on a l'impression que c'était des concerts de, à l'époque de Woodstock, ou, parce que t'as toutes les femmes super belles et tout, qui se déchaînaient à la première note de guitare. Et moi, avec mes yeux d'enfant, j'ai dit, c'est incroyable, une femme comme ça. Et c'est ça, Asna. Son père lui a interdit de faire la musique. Il est parti parce qu'il s'est marié avec une deuxième femme. Du coup, elle s'est libérée. Elle s'est retrouvée à 18 ans à subvenir aux besoins de toute une famille. Du coup, elle a été à 18 ans, elle a pris le bus, elle a fait 750 km pour monter à Oran sous les conseils d'un Espagnol qui lui a dit « Si tu veux faire du bruit dans les mariages, il faut acheter une guitare et un ampli. » Elle savait pas ce que c'était l'ampli. Elle a vendu les bracelets, trois bracelets de sa mère, c'était parce que c'était une famille très très pauvre. Et elle est partie à Oran, elle s'est acheté son petit ampli et sa petite guitare. Et là, c'était le grand grand succès. Grâce à cette guitare, elle a pu nourrir toute une famille, subvenir aux besoins de sa mère qui est devenue aveugle et tout ça. Mais le Goumbri est resté interdit. Elle n'a pas joué à Béchar parce que Asna, à l'époque, elle faisait des choses qui enfin, elle buvait, elle fumait, elle voulait pas toucher au Goumbri, et puis son père était...
Parce que c'est vraiment un instrument considéré comme quelque chose de sacré.
Quelque chose de sacré, oui. Oui, c'est un instrument c'est un instrument sacré chez les Gnawa. Par exemple, un musicien Gnawa, il peut pas toucher le Goumbri s'il a bu, ou s'il n'est pas propre sur lui. Il y a vraiment des conditions pour jouer les cérémonies. Maintenant, les jeunes, ils jouent le Goumbri, ils composent leurs propres morceaux.
De manière complètement profane, sans du tout ce qui était évoqué dans cette archive, c'est-à-dire chaque corde, presque chaque note est en mesure de mettre en contact avec un esprit, chaque personne.
Non,
on est assez loin de tout ça,
on
finalement.
On est très très loin et c'est très spécial maintenant. On n'est pas loin. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Ils sont spécialistes, mais c'est pas donné à tout le monde, hein, l'initiation. Vraiment, il faut avoir des années d'initiation, c'est très codifié. Du coup, Asna, elle est venue en 99 ici, au Festival de Femmes Algériennes au Cabaret Sauvage, on lui a demandé si elle savait jouer le Goumbri. Elle a dit oui, mais je peux pas le jouer, j'ai pas le droit parce que c'est un instrument réservé aux hommes.
Même pour elle, elle continuait à s'interdire.
Ouais. Et puis on lui a mis un peu la pression. On lui a dit, écoute, là t'es en France, il y a pas d'initiés qui vont te regarder ou rien. C'est un instrument qui plaît aux Français. Si tu veux avoir du succès, c'est ses paroles, joue le Goumbri. Et c'était sa première fois, la première fois de sa vie, elle l'a joué, c'était en France. Et elle m'a avoué qu'après, la nuit, elle a fait un rêve. Elle a rêvé de son père qui est venu la voir. Il lui a dit, tu l'as pris. Tu t'es autorisé à prendre cet instrument. Ben, je te donne un conseil, tu peux le jouer, mais fais attention à toi. C'est-à-dire, suis tous les rituels pour le jouer. Et à partir de là, Asna est devenue connue. C'est l'une des premières femmes qui joue le Goumbri.
Et justement, dans ces femmes que vous avez réunies, Swadasla, quel est leur rapport à la musique? Est-ce que c'est un rapport qui est très proche de ce qu'on vient de décrire là, très rituel, sacré, en lien avec l'initiation spirituelle et mystique? Ou est-ce que c'est éloigné de ça et maintenant ce sont des femmes qui font de la musique de manière complètement profane pour la transe, oui, mais la transe rythmique, la transe du poème, la transe de la musique? Ou est-ce que c'est juste un petit mélange de tout ça?
C'est un mélange. Ces femmes, elles sont vraiment, ce groupe, c'est vraiment un mélange. Il y a Jil Hajjaj Zaza et Aziza, c'est très codifié pour eux. Même si je veux changer un mot, ça va pas, il faudrait qu'on en discute. Elles sont très...
Elles tiennent à ce patrimoine intouché.
Intouché, à cette, elles disent non, ça, on peut pas le chanter sur scène parce que ça se fait pas, il faut chanter les cérémonies. Ce que j'aime pas trop, moi, j'aimerais bien que partager tout ce patrimoine. Il y en a qui sont très conservatrices dans ce groupe et que j'ai beaucoup de peine à les sortir de cette zone, mais il y en a d'autres qui font la musique comme Broca, qui a une voix extraordinaire, qui a une voix un peu à la Chicharimiti. Et qui est là pour faire la fête, la petite jeune qui adore danser. Enfin, c'est différent et on essaye de trouver un équilibre entre ces femmes qui sont très pratiquantes et puis nous qui sont
ça peut ouvert. Être conflictuel.
Des fois, c'était très conflictuel.
Ouais. Mais intéressant, du coup, aussi, conflictuel et amenant plein de discussions sur la table, j'imagine.
Très intéressant, ça prend des heures à convaincre. Moi, je suis toujours entre deux, parce que, au fait, même si je suis de là-bas et tout, le fait que je sois partie depuis longtemps, pour eux, je suis juste le témoin. Enfin, j'ai la place un peu, je peux faire le... Je peux faire le lien entre elles toutes, mais elles sont pas faciles. Toutes entre elles sont pas faciles. Genre, ah non, tu as mal chanté, c'est pas comme ça qu'on chante. Et puis l'autre, non, mais on s'en fout, c'est un concert. Non, c'est avant le concert. Enfin, pendant les répétitions, ça se passe. Sinon, sur scène, ça se passe bien.
Qu'est-ce qu'on écoute, Souad Asla?
Slat al-Fajr, chanté par Mani. Slat al-Fajr, ça veut dire la prière de l'aube. Et cette chanson, elle raconte tous les bienfaits de se lever le matin très tôt et faire cette prière qui nous relie au bon Dieu.
Ou au soleil.
Au soleil.
Ça dépend.
Tout à fait.
Exactement. Cosmos. Au ciel, aux nuages, à la lumière. C'est un morceau qui est dans le chapitre du genre maloun. Alors quelques mots rapides. C'est quoi?
Le melhoun, c'est des chants un peu traditionnels. C'est des chants classiques. C'est chanté souvent avec le oud, le violon, derbouka. Et c'est souvent, c'est des chants qui commencent par a cappella.
C'est ce que j'allais dire, à la différence de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, quelque chose de déjà une voix solo, ce qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant, et puis un tout petit peu moins rythmique, un tout petit peu moins
tout à fait.
C'est musique comme, qui tourne comme
c'est
ça.
C'est comme le ferda, c'est des chants très, très longs, avec des claps. C'est, voilà.
Est-ce que vous avez un petit préféré dans tous ces genres musicaux que vous avez réunis, Swadhasla? Pas de chansons, mais juste des genres comme ça, quelque chose qui vous parle plus à vous.
Le ferda. Le ferda, parce que ça se pratique dans un petit village qui est Kenadza. C'est des chants très, très lents, très, et ces chants me font énormément de bien parce que mon papa, il vient de ce village et souvent il invitait les vieux musiciens de ce style musical. Et je me rappelle de ces soirées chez moi, où ils passaient toute la nuit à chanter. Ils sont plus là, ces vieux. Même il y a pas mal de morceaux qui ont disparu. Et mon père, il adorait ce genre de chant.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor, Camille, André, Valentin, Rémy qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. À demain.